De Buenos Aires à Shakespeare avec Marie-Lou Marigny.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est pas une Marilyn, c'est une Marilou. Espiègle et lumineuse, clownesse et tragique, enfantine et sans âge. Voilà quelques-uns des visages de la comédienne Marilou Marigny, filmée par Sandrine Dumas dans un beau documentaire intitulé « Marilou Marigny, rencontre avec une femme remarquable ». Tous les visages sont filmés au fil du temps qui passe et tous les corps de la Marigny, qui aura échappé de peu à la dictature argentine de 1976, en suivant peut-être son instinct de danseuse, puis de comédienne, jusqu'à Paname, où elle jouera le scandaleux Coppi, mais aussi Fassbinder, Shakespeare, Beckett. Immense interprète argentine, au corps tatoué par la culture française, et qui ne se sent libre et vivante que sur un plateau de théâtre, dans les coulisses, ou derrière son miroir, à se grimer parfois monstrueusement. Je vous dis, c'est une Marilou, pas une Marilyn.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot do 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 do.
RFI ne peut pas mieux vous accueillir qu'avec ce Lou Reed. Buenos dias, Marilou Marigny.
Buenos dias, Jasmine. Bonjour.
Hey babe, viens traîner dans les bas-fonds. Hein, c'est ce que raconte Lou Reed. Elle vous évoque quoi, cette chanson qui date de 72 et qui vous donne un sourire absolument radieux, Marilou?
D'abord, je la trouve belle à l'entendre comme ça, sans même savoir que ce que Lou Reed nous dit. Et en plus, cet appel d'aller de l'autre côté, du côté interdit, du côté marginal, du côté où les choses sont autrement de ce qui est établi, me tente.
Oui, c'est votre signature. C'est... Vous connaissez peut-être le principe de ce portrait en sol majeur. Il y a des chansons, il y a des archives, et puis il y a une histoire autour de votre sol majeur. Allez, je vous emmène au théâtre.
T comme théâtre de l'enfance.
Car avant les tréteaux de la comédienne, il y a l'enfance de Marie-Lou. Qui vous a éduquée ?
Ah, j'étais éduquée surtout par ma tante, qui était une demoiselle prussienne et qui avait des principes très, très, très stricts. J'étais éduquée à la dure.
À la dure. Mais pourquoi ce n'est pas votre mère qui vous a élevée ?
Ben, ma mère était là, bien sûr, mais ma mère... Avant ma naissance, je venais de perdre une petite fille. Ma mère était en deuil quand elle m'a eue. J'étais, bien sûr, une joie énorme pour elle, mais elle était lointaine.
Famille d'artistes ou pas ?
Non, pas du tout. Mon père, c'était un homme extrêmement créatif. Il venait d'une famille extrêmement pauvre, des immigrants italiens, qui se sont établis en Argentine et qui, à fur et à mesure de sa vie et de ses connexions, créativité, est arrivé à être un bourgeois avec une réalité économique très agréable. Et donc, les principes bourgeois de ma famille étaient très établis. J'ai dû beaucoup lutter pour faire mon métier.
Pour transgresser. Cet imaginaire, en tout cas, il prend racine à Mar del Plata, donc dans la province de Buenos Aires, où vous avez grandi, Marie-Lou Marini. Je comprends maintenant pourquoi vous dites, en vous écoutant déjà, je suis la première génération argentine dans la famille. Ces origines italiennes d'un côté, prusses de l'autre, est-ce que ça veut dire que l'Europe a été un phare culturel pour vous dans votre éducation, dans votre culture, dans le cercle familial ?
Oui et non. Surtout l'Allemagne, la Prusse était beaucoup plus... Mon père était quelqu'un qui était beaucoup plus intégré à l'Argentine, à ce que signifie... Mais ma mère et ma tante continuaient à vivre et à frémir avec les échos d'une culture européenne tellement différente à la vie quotidienne en Argentine. Pour ma mère et pour ma tante, les Argentins étaient des gens qui ne travaillaient pas assez, qui éparpillaient l'argent comme ça, qui n'avaient des principes stricts sur la morale, etc., etc.
Cumple la subsecretaría de informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República. Y a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación.
Le sous-secrétariat à l'information de la présidence de la nation a le triste devoir d'informer le peuple de la République qu'à 20:25, madame Eva Perón, chef spirituel de la nation, est décédée. 30 jours de deuil vont être décrétés, les cérémonies funèbres se succédaient, 20 000 demandes de canonisation ont été envoyées au pape Pie XII. On est à ce moment-là en juillet 1952 et Marie-Lou, vous avez 7 ans. Mais vous vous souvenez de quelque chose de cette ferveur incroyable ?
Ah non, moi je me souviens parfaitement. Tous les programmes où il y avait la musique se sont arrêtés. On passait seulement de la musique religieuse ou... des discours de Evita à longueur de journée. l'enterrement, les défilés de l'enterrement avec son cercueil amené par ce qu'elle appelait los descamisados, les gens qui n'allaient pas en veste, sinon en chemise, que c'était les ouvriers. Et le cercueil a été amené et transporté à travers les rues de Buenos Aires par los descamisados. Je crois qu'il y avait 50 ouvriers qui faisaient avancer le cercueil de Vita.
Ouais, les images d'archives sont très impressionnantes.
C'est impressionnant.
Est-ce que cette période péroniste a coûté cher à votre famille?
Non, pas exactement. Je n'ai pas conscience de ça. Ma famille n'était pas péroniste, mais ils étaient un peu éloignés d'une militance politique.
De Rita Mitsouko dans votre ensemble majeur Marilou. Dans cette chanson, Rita Mitsouko, Catherine Ringer, qui a été élève de Marcia Moreto, dit « Marcia pouvait faire des pointes comme une ballerine et des grimaces dignes d'un clown ». Ça m'amène à la danseuse que vous avez été au début de votre carrière, Marilou. Quel genre de danseuse vous étiez ?
J'étais une danseuse plutôt contemporaine, mais j'avais eu une formation classique aussi. Mais, comme dit Rita Mitsouko, comme dit Catherine Ringer, je pouvais faire autant de pointes que des grimaces, chose que j'ai fait après dans mon métier. Mais ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une technique assez forte et de laquelle je pouvais me libérer quand j'ai dansé. Ça veut dire que ça soit assez intégré, comme quoi je ne dois pas penser à comment faire pendant que j'ai dansé.
Mmh. Se libérer, je vais reprendre au vol cette expression, parce que vous êtes danseuse dans un moment particulier de votre pays en Argentine. La dictature va se déclencher en 76. Vous allez partir juste avant, mais déjà, la violence est là. Au quotidien pour vous, vous avez même fait de la prison à Buenos Aires.
Oui, j'ai fait de la prison.
Et pour quelles raisons?
Mais pour des raisons. Et j'avais commencé à travailler comme comédienne. Mon premier rôle, ce fut la mère Ubu, dans Ubu enchaîné. Et avec un metteur en scène, on voulait monter les Bacchantes.
Les Bacchantes de...
des Euripides. Et donc, c'est moi qui faisais les trainings physiques du chœur. Et j'ai donné ces cours avec une tenue qui montrait mon nombril. Le vrai fond de la question, Jasmine, c'est qu'ils voulaient fermer l'Institut d'Audité, là où on travaillait, parce que pour les militaires, c'était un centre des transgressions, quelque chose de dangereux. Et donc, on m'a dénoncé comme dépravation des mineurs et par ma tenue osée de montrer le nombril. Oui. Et j'ai fait de la prison.
Voilà, vous avez fait... Parce que nous, on va tourner autour de votre nombril pour cause de portrait en sol majeur. Vous avez quand même fait 25 jours en cellule d'isolement.
Ouais. Le premier jour, j'étais dans une cellule où je ne pouvais pas être debout. Et on me donnait des miches de pain pour manger. Et je me souviens que je passais une grande partie de la journée à faire des petites fleurs avec la mie de pain pour avoir une thérapie manuelle, disons.
C'est joli. Comment la France s'invite dans la vie, dans le jeu de Marilou?
Bon, Alfredo Arias et Facundo Bo, avec qui j'avais travaillé, m'appellent pour venir travailler à Paris.
Et voilà.
Oui. buyebe nini yabakoko nayo.
Est-ce qu'avant de manger, vous bénissez la nourriture?
D'une certaine façon, oui.
Et ça veut dire quoi, d'une certaine façon?
Sans le faire par des mots, mais par toujours un profond remerciement et une profonde joie à la vie.
Je vous ai posé cette question parce que j'ai vu dans ce documentaire dont on va parler pour un sol majeur que vous faisiez le signe de croix avant de rentrer en scène.
Ah oui, oui. Avant de rentrer en scène, je fais les signes de croix et je crache sur l'épaule gauche. C'est un rituel qui m'a transmis un extraordinaire comédien de musical et de théâtre argentin, Jorge Luz, qui était une bête de scène. Et lui, il faisait ça avant de...
Mais pourquoi?
Pour conjurer tout et que tous les bons et les... Même les mauvais esprits viennent nous aider et être présents sur scène.
Alors ce goût de la scène, il va se mettre en place avec vous, notamment autour du groupe Tse, je ne sais pas si on prononce comme ça,
oui.
Donc, qui est né en 68. Groupe formé notamment autour d'Alfredo Arias, donc groupe d'Argentins en exil, qui ont connu une éducation européenne, qui ont subi au dehors... le même matraquage culturel américain à travers la télé et le cinéma, c'est un mouvement d'avant-garde. Vous avez une drôle de phrase, Marie-Lou, vous dites « c'était un groupe avec un côté un peu troglodyte
». Oui, troglodyte dans le sens que nous faisions un travail très intime, un travail, quand il se manifestait, il n'y avait pas d'explication, il y avait les faits qui se produisaient.
Alors cette avant-garde, elle s'incarne donc à travers deux figures du monde, on veut dire, du monde interlope argentin. Enfin ça, c'est moi qui formule ça comme ça. Coppi et Arias, dont on va entendre les voix. D'abord, Alfredo Arias, qu'on retrouve à vos côtés d'ailleurs, en 90, au moment où il monte avec vous les escaliers du Sacré-Cœur de Coppi. C'est une pièce dans laquelle lui demande un certain Thierry Ardisson. Il joue quoi?
Je joue à un PD. Et qui vient la draguer, qui se fait tabasser par des tableaux, qui les tue, mais c'est pédé à la condition de ressusciter, de revenir à la vie constamment et de s'acharner dans cette pissotière. Et puis nous découvrons, on se retrouve avec Marie-Lou, nous sommes mari et femme, nous avons eu un enfant, que c'est la fille qui traîne là dans les escaliers et qui dit ne pas savoir si elle est une fille ou un garçon. Finalement, elle s'est fait séduire par un garçon arabe, ils sont un enfant à la fin de la pièce, c'est dans cette naissance qui s'est produit un massacre mais joyeux.
Je suis arrivé à Paris quand j'avais 22 ans, je suis argentin.
Raoul Damante Botana di Coppi, romancier, dessinateur, dramaturge argentin et figure majeure du mouvement gay, disparu en 87.
Je ne connaissais personne, j'ai commencé à vendre des dessins dans la rue. Je voulais toujours faire du théâtre. Puis j'ai commencé à publier dans le Nouvel Observateur, j'ai commencé à faire du café-théâtre avec Jérôme Savary. J'ai fait d'abord Loretta Strong, c'était un monologue où je jouais tout seul. Je ne me souviens pas du nom des personnages, je ne me souviens de rien, j'oublie très vite. Je me souviens seulement de ce que je suis en train de faire en ce moment.
Coppi et Alfredo Arias, dans votre ensemble majeur, dans votre famille à vous de théâtre, Marie-Lou Marini, deux figures. Alors vous êtes d'accord avec ça, de dire qu'ils incarnent à leur époque en tout cas une forme de transgression. Mais de quelle transgression on parle ?
Je suis d'accord avec vous, ils incarnent une transgression. Cette transgression éternelle qu'il a, l'artiste, de ne pas être configuré par les normes d'une société établie et déchirer le voile qui nous sépare de cette partie de nous-mêmes et de la société qui est la partie intéressante, parce que c'est la partie... cacher la partie qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas intellectuelle. Et en ce moment où Alfredo et Coppi parlent, ça va être les années 90, il y avait tous les mouvements gays et les mouvements de libération commencent à être palpable, commence à être là, présent.
Les années SIDA sont là aussi.
Et les années SIDA commencent, justement, Coppie, qui est mort du SIDA, c'était un être extraordinaire dans le sens qui était quelqu'un qui haïssait la confusion et l'ambiguïté.
La confusion.
Oui, il voulait que les choses soient dites très clairement et très frontalement. Il s'est prêté à expérimenter des drogues nouvelles pour le sida. Et étant atteint de sida, il a écrit cette pièce magnifique qui est Une visite inopportune. Un écrivain qui est atteint du sida et qui reçoit les visites de son passé et de son présent.
C'est drôle parce qu'en écoutant ce parcours, je repensais à MeToo, ce mouvement de libération de la parole des victimes autour des agressions sexuelles. Est-ce que vous, Marie-Lou, vous avez l'impression de vous être construite à côté du schéma patriarcal qui, j'imagine, on l'imagine, était ou est toujours très puissant en Argentine?
Mais je crois que j'ai toujours essayé d'être libre. Ça, je crois que c'est la lutte contre les systèmes patriarcaux. Ça veut dire de ne pas penser à nous hein, comme femmes, comme êtres humains, dans le moule où le patriarcat nous a mis. Non, une femme doit être belle, sympathique, ta-ta-ta.
Donc vous étiez MeToo avant l'heure.
Je ne sais pas si j'étais
sans être militant,
sans être militant, mais avec un désir d'exister et dans ma configuration à moi, de ne pas être une mièvre figure inventée par les systèmes patriarcaux.
Oui, on vous imagine mal en petite femme d'intérieur. Alors, ce film Marie-Lou Marigny, rencontre avec une femme remarquable, il est précieux à plus d'un titre. Il y a plein d'archives magnifiques filmées de vous, sur scène, dans les coulisses du théâtre, bien sûr. Tout ça filmé par votre fille de théâtre, oui. Une certaine Sandrine Dumas, qui a su capturer quelques-unes des mille et une voix de Marie-Lou Marigny. Évidemment, il va manquer l'image là, mais pour En sol majeur, on va quand même s'en offrir la preuve avec ce florilège.
Marie était si drôle. Il m'a joué de ses tours. Un jour, il me dit, viens, assieds-toi là sur cette chaise. Je reviens te changer tout de suite.
Oh, j'en dors. Un réveil sonne, elle se réveille, se lève, va arrêter la sonnerie, revient se coucher. Un deuxième réveil sonne, elle va arrêter la sonnerie dans un autre endroit de la maison. Elle est sur le point de se recoucher lorsqu'un troisième réveil sonne. Elle a à peine arrêté la sonnerie quand un quatrième réveil sonne. Elle court dans les parcs, arrêtant les sonneries qui se multiplient. Il y a de quoi commencer sa journée de mauvaise humeur.
Plusieurs voix, plusieurs visages dans une veine très BD, très clownesque aussi. L'humour, c'est vraiment dans l'ADN, Marie-Lou Marigny.
Mais l'humour, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'il nous permet d'avoir une distance avec nous-mêmes. Il nous permet de contempler et de regarder ce qui nous arrive des fois. Et aussi d'avoir l'élégance d'épargner à nous-mêmes et à l'autre des situations dures.
Est-ce que vous faites le lien entre l'humour et la dictature? Le fait que vous ayez vécu dans un climat pré-dictature, mais en tout cas déjà dur, où il y avait de la violence, vous avez été incarcéré.
Ah, mais dans la dictature, Jasmine, il n'y a jamais de l'humour.
Mais l'humour peut sauver les gens.
Ah, mais c'est, je c'est, crois
c'est
que
dans ce
oui.
sens-là que je
ah,
dis ça.
Ah, mais oui, oui, absolument. Ça crée une distance qui amortit la douleur.
Je pense à la dictature, je pense aussi au climat de guerre, hein, c'est pareil.
Et comment ?
Si on revient à cette école de théâtre qui a été un petit peu le groupe C pour vous, Marie-Lou, on dit que c'est un groupe qui a exploré la culture dite mineure en dégageant les codes et en les retranscrivant et en évacuant toute émotion et toute psychologie. Les comédiens se transforment alors en illustrations flamboyantes, en hiéroglyphes subtils. C'est ce que disait la critique dramatique Colette Goddard. Est-ce que vous pensez, vous, avoir nourri vos personnages, on vient d'en avoir trois exemples là à l'instant, de cette intention ?
Oui, avoir côtoyé ce qu'on appelle les arts mineurs, comme les musicals, comme les variétés, et qui ne sont pas du tout mineurs, ils sont remplis de sagesse et d'enseignement. Mais je connais très bien Colette Goddard, et la seule chose dans laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'y avait pas d'émotion dans le personnage concret. Pas de psychologie, oui, mais l'émotion y était. Je crois que l'émotion y est toujours au théâtre.
Titoutita ! Allô ? Ménie Grégoire ? C'est Lucette.
Vous savez qui c'est, Ménie Grégoire, chers jeunes auditeurs ? Alors, c'était une journaliste française qui a animé une émission de radio interactive pendant une quinzaine d'années intitulée « Allô, Ménie ». Allez, on reprend.
Titoutita ! Allô ? Ménie Grégoire ? C'est Lucette. Lucette Hulot, je vous avais appelé le 22 mars l'année dernière. Non, pas la clitoridienne, moi. Je suis la vaginienne. C'est moi que mon mari sodomisait. Eh bien, grâce à vous, j'ai résolu tous mes problèmes. J'ai suivi vos conseils, j'ai trouvé le bonheur. En maigrichant, mais sexuellement, il est très tendre. Je l'aime, Ménie.
Marie-Lou Marigny dans le fauteuil dans Sol majeur et dans la femme assise de ce fameux copie, d'après sa BD. D'ailleurs, je crois que c'est cette BD qui va lui donner la notoriété à copie. Alors, je donne l'image parce que malheureusement, là, ça manque cruellement. C'est un personnage de dame assise, au gros nez, aux cheveux tout raides et qui reste comme ça, figé sur une chaise et qui se met à dialoguer à un moment donné avec un volatile informe. C'est quoi être actrice pour vous, Marie-Lou Marigny ?
C'est être humaine et être sur scène avec tout ce que j'ai vécu et que je vis dans le moment de la scène, qui est une chose vertigineuse et hallucinante, et aussi oser aller à cet endroit où on n'a pas de contrôle sur le rationnel, il y a d'autres choses qui émergent, mais on sait qu'on est sur une scène de théâtre et on est en train d'incarner un personnage ou non, ou oui, un texte. Je sais pas.
Donc vous n'êtes pas contre la méthode de Lee Strasberg qui permet aux acteurs de puiser dans leurs affects propres pour créer justement cette émotion.
Non, je ne suis pas contre la méthode de Strasberg, mais je ne crois pas que ce soit la seule façon. Et quand je parle de puiser dans notre vécu, c'est pas seulement de faire une reconstruction émotionnelle comme dans la méthode de Strasberg, sinon d'aller dans l'inconscient, peut-être.
Ah oui. Allô, Freud.
Ah, Monsieur Freud, pour
Lacan.
Moi, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant d'explorer.
En tant que comédienne, vous diriez ?
En tant qu'être humain,
on est d'accord.
Humain,
mais la comédienne, est-ce que vous vous servez ? Et puis, ne parlons même pas de Jacques Lacan, qui disait que l'inconscient était structuré comme un langage.
Mais oui, je ne peux pas séparer l'être humain de la comédienne, Jasmine.
Racontez-nous ce plaisir incroyable que vous avez eu à incarner, j'emploie volontairement le terme, la femme assise, qui est un personnage de bande dessinée.
Vous savez, je crois que pour jouer, il faut aimer les personnages qu'on joue.
Donc vous ne jouez que des personnages que vous validez dans la vie ? Ou est-ce que vous pouvez aimer un personnage salopard?
J'ai pu aimer un personnage de salopard, absolument. Il n'y a pas un jugement moral sur ça. Pour moi, il faut aller au-delà de ça. Et j'ai profondément aimé cette femme, comme vous la décrivez, assise, entassée sur une chaise, le gros nez, les cheveux raides. Cette espèce d'ignorante métaphysique qu'elle est, parce qu'elle se trompe, elle va droit dans le mur. C'est quelqu'un qui a des convictions très établies, qui n'a pas une intelligence de vivre, mais en même temps, elle a quelque chose de candide face à la vie, et en même temps, elle peut être monstrueuse.
Et justement, à propos de monstre, est-ce que c'est aussi jubilatoire pour vous que de jouer Caliban dans La Tempête de Shakespeare, qui est un être négatif, qui symbolise la violence, qui symbolise la mort?
Ah, pour moi, Caliban ne symbolise pas la mort. Caliban symbolise cet être dépossédé par Prospero de son île. Justement, pour moi, Caliban, c'est presque l'inconscient, parce qu'il est capable d'aimer et de haïr en même temps. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une façon tellement lyrique et poétique de décrire l'île.
Alors, j'ai l'image de ce Caliban au Festival d'Avignon, parce que vous l'avez joué là-bas, où vous êtes grimé, vous avez quasiment le visage poilu.
Oui, j'avais demandé ça.
Ah, c'est vous qui aviez demandé ça?
J'ai demandé à Chloé Obolensky, qui est la créatrice des costumes, parce que je voyais ces personnages qui étaient un peu aussi en moitié chemin entre l'humain et l'animal, et qui avait quelque chose qui se confondait avec la nature même, au-delà de l'humain.
Alors, dans votre panthéon, enfin, une partie de votre panthéon, chère Marie-Lou, il y a donc Shakespeare, il y a Coppi, et puis bien sûr, un certain Fassbinder.
Filmemachen ist ganz sicher, wie alles, was man an Kunst machen kann.
Faire du cinéma est certainement, comme dans tout domaine artistique, une forme de l'autoreprésentation. Une forme aussi qui permet d'assumer sa propre vie, sa propre existence, de la faire partager. Cela dans la mesure où l'on fait quelque chose qui est regardable ou écoutable pour les autres. Bref, qui les concerne aussi.
Anhörbar oder ansehbar ist, eben auch für andere relevant ist.
Au micro de Klaus Eder, c'était en 77, Fassbinder. Je pense que vous êtes d'accord, Marie-Lou, lorsqu'il dit que le cinéma est une forme qui permet d'assumer sa propre vie. Je crois que vous étiez, à un moment donné de votre parcours, en train de répéter « Le bonheur n'est pas toujours drôle » de ce Fassbinder dont vous dites qu'il vous a remis dans votre mère avec ce texte.
Et oui, le monde que Fassbinder nous montre, où il place ses histoires, c'est un monde qui m'a ramené à la culture germanique, à cette culture, à ces façons de se relationner avec la réalité, avec le quotidien.
Ce film de Sandrine Dumas, Marie-Lou, montre aussi le temps qui passe et qui redessine à la fois le corps et le visage. Comment la comédienne que vous êtes vit ce temps qui passe?
Ah, mais je le vis avec beaucoup de philosophie. Je ne le vis pas avec résignation. Pour moi, c'est une matière avec laquelle je dois travailler et que je dois façonner pour continuer à travailler comme comédienne. Jouer au théâtre, pour moi, c'est ma vie. Et donc, je voudrais le faire le plus longtemps possible. Et pour ce faire, je dois entretenir et penser à mon corps qui évolue comme quelque chose qui est vivant, pas qui est mort. Je veux dire, je ne m'attarde pas sur les pertes, ouais, ce que j'ai perdu.
Mais là aussi, vous êtes transgressive, parce que l'époque, elle est fâchée avec le vieillissement.
Oui, mais je crois que sur les pertes, justement, on ne doit pas les effacer.
Oui, il y a les pertes, mais il y a les gains aussi. Est-ce qu'on n'en parle peut-être pas assez ?
Mais c'est ça. C'est ça.
Qu'est-ce que vous gagnez alors en vieillissant, Marie-Lou ?
je crois qu'il y a une certaine sagesse de se dire il y a toujours un marge d'aventure, un marge de découvrir.
Il y a toujours des premières fois.
Et de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas.
Est-ce qu'il y a des fantômes avec vous sur le plateau ? Est-ce que vous vivez sur scène aussi avec la présence de fantômes ?
Mais des fantômes qui m'aident à être là et à être plus libre. Moi, par exemple, j'ai une grande admiration pour Pauline Carton.
Oh là là, on a perdu tous les jeunes auditeurs là. Je veux dire les moins de 40 ans.
Là. Mais aussi, j'ai une grande admiration pour, comme elle est sur scène, Amy Winehouse, par exemple. Là, j'espère qu'on a...
On a récupéré. Oui, alors, ce que vous dites, c'est quoi ? C'est que...
Ah, ce sont des âmes libres, libres. Et une conviction et une passion profonde pour ce qu'ils font. Et quelque chose qui est non conventionnel et pas politiquement correct.
En tout cas, c'est magnifique de vous voir sur scène parce que c'est le lieu où vous vous sentez le plus libre au monde, alors que c'est quand même le lieu qui est l'un des plus millimétrés aussi.
Oui, mais là, on peut aller au fond et en haut de soi-même, je ne sais pas. Oui. On peut chercher toute la périphérie humaine qui est la nôtre. Sur scène, on peut aimer celui qu'on ne peut pas aimer dans la réalité. On peut tuer, parce que des fois, dans la vie de tous les jours, on a envie d'étrangler l'interlocuteur, mais on ne peut pas. Sur scène, oui.
Oui. L'image va magnifiquement à Beckett, parce qu'il va s'inviter une seconde aussi en sol majeur. Vous avez joué « Oh les beaux jours » en incarnant cette Winnie qui est enterrée jusqu'au cou. C'est une image de l'humanité exceptionnelle. Et c'est peut-être une image aussi qui parle alors, à l'Argentine aussi, que vous êtes encore.
Et la chose qui est merveilleuse dans Winnie et dans comment Beckett nous la montre, c'est qu'elle continue à vivre à travers les mots. Le premier acte, elle commence à enterrer jusqu'à la taille et après, ça va jusqu'au cou. Mais elle persiste. Vous savez, des fois, quand je marche dans la rue et que je vois sur le trottoir cette petite plante qui émerge des fissures du trottoir, je me dis, ce sont des Winnie.
Quelle heure est-il dans votre vie ?
Il est quelle heure dans votre vie, sur un petit peu de Puccini ?
Quelle heure ? Midi.
Mais encore.
Midi. Il est l'heure de continuer à travailler, de continuer à faire vivre mon métier à moi et à faire vivre tout ce que j'aime.
C'est quoi la vie d'une comédienne ? Eh bien, en regardant Marie-Lou Marigny rencontre avec une femme remarquable, donc film de Sandrine Dumas qui vient de sortir, on comprend que c'est prendre le train en apprenant son texte, mais c'est aussi travailler son texte en prenant des cours de diction.
Oh. Oh. Alors attention, oui. Parce que « oh », il y a la langue aussi qui est un petit peu plus en arrière. Tu vois ?« Oh,
oh. ».
Alors que si je fais «
oh, Oui.
Ma langue est plus en avant.
A, O, O, O,
O,
O, la, O, en.
Voilà. C'est pour ça que des mots comme moment et comment sont des mots difficiles parce que on a ces deux sons-là et ils sont tellement proches.
Oui. Nous voyions bien que le péronisme n'allait pas s'arrêter du jour au lendemain. Nos chances de rentrer en Argentine, nos chances de rentrer en Argentine devenaient chimériques. Nous émigrâmes à Montparnasse au début des années 50.
Magnifique leçon de diction. Et c'est toute l'histoire de votre vie en même temps, Marilou Marini. On vous sent là aux prises avec la phonétique de Molière. Et je me demandais ce que ça voulait dire finalement de vivre et de jouer dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle.
C'est de créer un autre corps. On a un corps que c'est la langue maternelle auquel on ne pense pas, on n'a pas besoin de le mettre en mesure, de le contrôler, de faire la barre de ce corps, la technique de Jean en nous. Mm-hmm. Et après, il y a cet autre corps qui est le corps de la langue apprise. C'est lui que on doit se faire, on doit exercer. Et c'est énervant par moments, parce que bien sûr, en français, il y a des sons, des parties de notre appareil phonique qui ne sont pas mis en jeu dans la langue espagnole. Donc on doit réveiller toute une partie physique et on doit réveiller aussi une partie de ce corps qui est le corps dans la symbolisation. Ça, c'est magnifique à faire parce que, bon, toute langue, c'est un regard sur comment organiser le monde dans lequel nous vivons.
Est-ce que ça veut dire, au bout de 50 ans en France, qu'une partie de cette langue maternelle s'est endormie en vous ?
Non. La langue maternelle ne s'endort pas. Elle est latente tout le temps. Elle est là. Mais pour moi, la beauté et la capacité de symbolisation dans les littéraires qui est le français est devenue aussi une réjouissance. Bon, mon premier grand amour, c'était Diderot pour moi.
Ah oui, et le neveu de Rameau.
Le neveu de Rameau, la paradoxe du comédien, oui. Et ces textes tellement délicieux que les bijoux indiscrets ou les sexes des femmes commencent à parler comme ça et dire des choses qui ne doivent pas être dites en public.
Donc aussi. C'est pas un vain mot de dire que vous avez le corps tatoué par la culture française. D'ailleurs,
oui, mais,
France, vous êtes reconnaissante. Je ne sais pas si c'est le mot reconnaissante, redevable à la France.
Mais moi, en tout cas, je suis reconnaissante à la France parce qu'elle m'a donné un espace, un lieu de jeu.
Ça n'exclut pas la critique.
Non, bien sûr.
Qui aime bien châtie bien.
Exactement. Des fois aussi, j'ai dit, mais je vous en prie, enlevez les corsets.
On n'a pas le temps d'aller jusque-là, chère Marilou. J'aimerais bien qu'on se quitte, en tout cas, avec cette langue espagnole qu'on n'a pas encore entendue. Finalement, on vous surprend dans une leçon de diction pour bien parler cette langue de Molière. Mais j'aimerais bien vous voir patauger, si j'ose dire, à l'aise, dans un texte, un poème de Oliverio Girondo que vous nous avez ramené. C'est une figure de l'avant-garde argentine qui est mort en 67 à Buenos Aires. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de lui ?
Je vous ai ramené un poème de Oliverio Girondo qui s'appelle « A pleno llanto » où il nous invite à bien pleurer pour après pouvoir bien saluer la vie. A pleno llanto, y entre tanto lloremos tomados de la mano. Lloremos, sí, lloremos amargo llanto verde, sustancias minerales, azufre, mica, arena, cristales fracasados, humilladas tachuelas, ardientes lagrimones del acre derretido. Lloremos, ah, lloremos purificantes lágrimas hasta ver disolverse el odio, la mentira, y lograr algún día, sin los ojos lluviosos, volver a sonreírle a la vida que pasa.
Après avoir bien pleuré, il faut bien saluer la vie.
Exact.
Merci et gracias, Marilou Marini, de cette belle visite en sol majeur qui va se refermer avec Oumou Sangaré et son Kounkoun. Émission à retrouver en podcast, je ne sais pas si vous êtes très podcast, mais en tout cas ça se passe du côté de Pure Radio. Théo Raison, Yasmine Chouaki. Nous, on se retrouve samedi prochain avec Madame Diéné Keïta, juste après ce Kounkoun, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.
Hey, mo ba baranyo njugu debi kungumbo.